Bienvenue dans Actualité du Pape. Commençons par l'invitation du Saint-Père aux trappistes de la stricte observance d'avancer en écoutant les désirs du Christ. Les participants au chapitre général de l'ordre des cisterciens de la stricte observance ont été reçus ce vendredi 16 septembre dans la matinée en audience par le Saint-Père. Le pape François les a encouragés à explorer quatre rêves qu'ils ont exprimés au début de leurs travaux. Un rêve de communion, un rêve de participation, un rêve de mission et un rêve de formation. Le Saint-Père les a appelés à interpréter tous ces rêves à travers le Christ, en regardant l'Évangile et en imaginant, à la manière de saint Ignace, comment le Seigneur a pu penser ces quatre aspects. En effet, dit-il, ces rêves nous construisent en tant que personnes et en tant que communauté, dans la mesure où ils ne sont pas les nôtres, mais les siens, et où nous les assimilons dans l'Esprit Saint. A expliqué le souverain pontife, aux filles et fils spirituels de saint Benoît et de saint Bernard de Clairvaux. La recherche des rêves de Jésus s'assimile alors à la quête spirituelle de ses plus grands désirs que le Père a fait naître dans son cœur divino-humain. Il faut parcourir les évangiles pour les deviner. Le rêve de communion est rapporté par saint Jean. Il s'agit d'un rêve de communion des disciples entre eux et avec le Père. Cela ne consiste pas, nous dit le pape François, dans notre uniformité, notre homogénéité, notre compactibilité, plus ou moins spontanée ou forcée. Car l'Esprit Saint suscite l'harmonie. Il ne s'agit pas de craindre la diversité, mais plutôt les particularismes et les exclusivismes. Le rêve de communion fraternelle peut se trouver en saint Matthieu. Tous y participent sur la base d'une relation filiale commune avec le Père et en tant que disciples de Jésus. À l'identique, une communauté de vie consacrée peut être un signe du royaume de Dieu, en témoignant d'un style de fraternité participative entre des personnes réelles et concrètes, qui, avec leurs limites, choisissent chaque jour, dans la confiance en la grâce du Christ, de vivre ensemble. Les outils de communication actuels peuvent et doivent être au service d'une participation réelle, et pas seulement virtuelle, à la vie concrète de la communauté, a ajouté le pape François. Le rêve de mission peut aussi être celui des contemplatifs. Il n'y a pas de charismes qui sont missionnaires et d'autres qui ne le sont pas, a déclaré le souverain pontife. Tous les charismes, tels qu'ils ont été donnés à l'Église, sont destinés à l'évangélisation du peuple. Bien sûr, de manière différente. Un moine qui prie dans son monastère joue son rôle en apportant l'Évangile à cette terre, en enseignant aux gens qui y vivent que nous avons un Père qui nous aime et qu'en ce monde, nous sommes en route vers le ciel, vers le ciel. Enfin, le rêve de formation est également exprimé par Jésus à ses disciples. Le Maître rêve la formation de ses amis selon la voie de Dieu, qui est l'humilité et le service, a indiqué le Saint-Père. Il s'agit aussi de se laisser faire par l'Esprit-Saint. Ce rêve de formation est en fin de compte un signe de sainteté, a conclu le pape François, le long duquel la grâce du baptême se déploie et porte du fruit, grâce à l'Esprit Saint. Avant de réciter la prière de l'Angélus de ce dimanche 17 septembre, place Saint-Pierre de Rome, le pape François a rappelé qu'en vue de la vie éternelle, il n'est pas nécessaire d'accumuler les biens de ce monde, mais plutôt de pratiquer la charité dans nos relations fraternelles. Dans la parabole de l'Évangile du jour, Jésus raconte une histoire de corruption. Un intendant malhonnête qui vole, puis découvert par son maître, agit avec ruse pour se sortir de cette situation. Demandons-nous en quoi consiste cette ruse et que veut nous dire Jésus, s'est d'emblée interrogé le pape François. Le récit nous montre que cet intendant se retrouve en difficulté parce qu'il a profité des biens de son maître. Il devra maintenant rendre des comptes et perdra son emploi. Mais il ne renonce pas. Il ne se résigne pas à son sort et ne joue pas les victimes. Au contraire, il agit avec ruse. Il cherche une solution, il est plein de ressources. Jésus s'inspire de cette histoire pour nous lancer une première provocation. Les fils de ce monde, dit-il, envers leurs égaux, sont plus habiles que les fils de la lumière. C'est-à-dire qu'il arrive que ceux qui se déplacent dans l'obscurité, selon certains critères mondiens, savent comment se sortir des difficultés, savent être plus malins que les autres. En revanche, les disciples de Jésus, c'est-à-dire nous, nous sommes parfois endormis, ou bien nous sommes naïfs. Nous ne savons pas prendre l'initiative pour chercher les moyens de sortir de nos difficultés, explique le Saint-Père, pensant à des moments de crise personnelle, sociale, mais aussi ecclésiale. Parfois, nous nous laissons gagner par le découragement, nous dit-il, ou nous tombons dans la complainte et la victimisation. Au contraire, nous pourrions aussi être habiles selon l'Évangile, être alerte et attentif pour discerner la réalité, et être créatif pour chercher de bonnes solutions, pour nous-mêmes et pour les autres, conseille le souverain pontife. Détaillant un autre enseignement de Jésus sur l'utilisation de la richesse. Faites-vous des amis, nous dit le Seigneur, avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Ce qui veut dire, relève le Saint-Père, que pour hériter de la vie éternelle, il n'est pas nécessaire d'accumuler les biens de ce monde, mais ce qui compte, c'est la charité que nous aurons vécue dans nos relations fraternelles. Voici donc l'invitation de Jésus. N'utilisez pas les biens de ce monde uniquement pour vous-même et votre égoïsme, mais utilisez-les pour générer des amitiés, pour créer de bonnes relations, pour agir dans la charité, pour promouvoir la fraternité et pour prendre soin des plus faibles. Dans le monde d'aujourd'hui, il existe des histoires de corruption, comme celles que nous raconte l'Évangile, rappelle le pape. Des conduites malhonnêtes, des politiques injustes, de l'égoïsme qui domine les choix des individus et des institutions, et bien d'autres situations obscures. Mais nous, chrétiens, nous n'avons pas le droit de nous décourager. Ou pire encore, de laisser aller les choses, de rester indifférents. Au contraire, nous sommes appelés à faire preuve de créativité pour le bien, avec la prudence et la sagacité de l'Évangile, en utilisant les biens de ce monde, pas seulement les biens matériels, mais tous les dons que nous avons reçus du Seigneur. Non pas pour nous enrichir, mais pour générer l'amour fraternel et l'amitié sociale, a conclu le pape François. Le pape François a reçu ce lundi 19 septembre Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris. Monseigneur Ulrich a été nommé à ce poste le 26 avril 2022. Il a rencontré le pape François le lendemain de la cérémonie de l'imposition du pallium. C'est le nonce apostolique en France, Monseigneur Celestino Migliore, qui a imposé le pallium à l'archevêque de Paris, symbole d'unité et signe de communion avec le siège apostolique. Au cours de l'homélie prononcée hier, Monseigneur Ulrich, dont je citerai un extrait de l'homélie tout à l'heure, a dit que si le pape François avait voulu que le pallium des archevêques lui soit remis publiquement, au cours d'une célébration liturgique à laquelle participe le peuple de Dieu, c'est pour que soit rendue plus visible encore la communion, qui comme archevêque et dans l'exercice de sa mission de pasteur, le lie à lui et aux autres évêques, en particulier ceux de cette région. Il a souligné, Monseigneur Ulrich, que pour que le salut de Dieu soit rendu plus visible, le Seigneur appelle encore une fois chacun à se convertir, à se tourner vers lui. Ainsi, ce salut de Dieu apparaît-il comme une puissance de paix, de lien, de communion et de fraternité. Voici un extrait de l'homélie donc de Monseigneur Laurent Ulrich à Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'occasion de la réception du pallium. Aujourd'hui, le Saint-Père a voulu que le pallium des archevêques me soit remis publiquement au cours d'une célébration liturgique, à laquelle participe le peuple de Dieu, à Paris et dans les diocèses qui font partie de cette province ecclésiastique de Paris. En présence de Monseigneur le nonce apostolique, qui représente l'évêque de Rome, dont l'Église préside à la charité de toutes les églises catholiques du monde. En présence des évêques de la dite province, des prêtres et des diacres, des baptisés en mission, des consacrés et de tous les fidèles du Christ. Si le Saint-Père a voulu cela, c'est pour que soit rendue plus visible encore la communion, qui, comme archevêque et dans l'exercice de ma mission de pasteur, me lie à lui et aux autres évêques, en particulier ceux de cette région. Nous avons à vivre, nous, évêques, dans la communion affective et effective, comme on dit, pour en résumer les qualités les plus profondes. Et cette manière de vivre doit rejaillir sur nos églises diocésaines et sur le peuple tout entier, susciter, développer et encourager l'esprit de paix et d'unité. Pour que le salut de Dieu soit rendu plus visible, le Seigneur appelle encore une fois chacun à se convertir, à se tourner vers lui. Ainsi, ce salut de Dieu apparaît-il comme une puissance de paix, de lien, de communion et de fraternité. C'est justement un moment pour le faire alors que nous percevons un appel à soutenir l'accompagnement fraternel à l'égard de ceux qui sont dans de grandes angoisses, des souffrances physiques et psychiques, corporelles et spirituelles, de la maladie grave et de l'approche de la mort. En effet, notre société voit arriver un grand débat autour de la fin de vie, débat très récurrent depuis le tournant du XXIe siècle. Une succession de lois ne semble jamais l'apaiser, et l'on dit qu'il reste toujours des cas nouveaux non encore prévus par la loi qui oblige à la modifier. Comme si une loi était faite pour supprimer tout problème de conscience, toute interrogation éthique devant les circonstances délicates de l'existence. Il s'agit donc que puissent être entendues les voix de ceux qui accompagnent fraternellement ces hommes et ces femmes, qui sont dans les douleurs et les angoisses de la fin de vie. La voix de ceux qui font de ces moments des temps intenses, où sont pris en compte les profonds besoins de réconciliation, d'écoute des aspirations spirituelles, de préparation. Nous nous rappelons que l'introduction des soins palliatifs depuis une quarantaine d'années a su apporter de grands bénéfices pour la compréhension et le soulagement des patients, mais que leur extension, réclamée par la loi, est insuffisante au regard des besoins, et qu'il est du devoir éthique de notre nation de rendre les soins palliatifs plus accessibles, mieux connus et appliqués, afin qu'il demeure plus humain de croire possible une aide fraternelle à vivre les derniers instants de la vie terrestre. Nous croyons profondément que nous disposons de réelles ressources pour pratiquer cela. Et depuis 40 ans, de très belles générosités personnelles et associatives ont été déployées dans ce service de la vie. Nous pouvons en témoigner. Mais aussi, comme l'apôtre Paul le demandait, nous portons cela dans la prière pour toute notre société et pour ses responsables, le législateur, les relais d'opinion, les chefs politiques et sociaux. Que personne ne perde cette espérance et que nous sachions compter avec confiance sur la force de Dieu pour éclairer les cœurs et les consciences. Alors, dans notre société inquiète, des lueurs de paix et de joie pourront parvenir au cœur de nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous conduise dans ce sens. Au cours de l'audience générale de ce mercredi 21 septembre, place Saint-Pierre, notre Saint-Père le Pape François est revenu dans sa catéchèse sur ses moments vécus lors de son 30e voyage apostolique effectué du 13 au 15 septembre au Kazakhstan, à l'occasion du 7e congrès des religions mondiales et traditionnelles. La raison principale de ce voyage était de participer au congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles. Cette initiative, menée depuis 20 ans par les autorités kazakhes, se présente au monde comme un lieu de rencontre et de dialogue au niveau religieux. Et donc estime le pape François comme un protagoniste de la promotion de la paix et de la fraternité humaine. Une image peut bien représenter tout cela. Une immense salle circulaire, équipée des instruments technologiques les plus modernes, avec au centre une énorme table ronde où les chefs religieux étaient assis. Tout autour d'eux étaient disposées les délégations de diverses institutions et organismes internationaux. Cela signifie pour le pape qu'il faut placer les religions au centre de l'effort visant à construire un monde où l'on s'écoute les uns les autres et où l'on se respecte également dans la diversité. Le pape salue l'effort du gouvernement du Kazakhstan qui, après s'être libéré du joug du régime athée, propose aujourd'hui une voie de civilisation qui associe politique et religion, sans les confondre ni les séparer, en condamnant clairement le fondamentalisme et les extrémismes. Lors de ce 7e congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles, les participants ont discuté et approuvé une déclaration finale, qui s'inscrit, dit le pape, dans la continuité de celle signée à Abu Dhabi en février 2019 sur la fraternité humaine, interprétant ce pas en avant comme le fruit d'un long parcours. Le souverain pontife se souvient de l'historique rencontre interreligieuse pour la paix, convoquée par Saint Jean-Paul II à Assise en 1986, du regard clairvoyant de Saint Jean XXIII et de Saint Paul VI, mais aussi de grandes âmes d'autres religions, citant Mahatma Gandhi. Le pape François a eu également une pensée pour les martyrs, les hommes et les femmes de tous âges, langues et nations, qui ont payé de leur vie leur fidélité au Dieu de la paix et de la fraternité. Les moments solennels sont importants, dit-il, mais ensuite, c'est l'engagement quotidien. C'est le témoignage concret qui construit un monde meilleur pour tous. Le voyage du Saint-Père dans ce pays d'Asie centrale a été une occasion de discuter et d'échanger avec les autorités kazakhes et l'Église locale. François a mis un accent particulier sur la vocation du Kazakhstan, l'invitant à être un pays de rencontre, où près de 150 ethnies coexistent et plus de 80 langues y sont parlées. Cette vocation, dit-il, qui tient à ses caractéristiques géographiques et à son histoire, a été accueillie et embrassée comme une voie qui mérite d'être encouragée et soutenue. J'ai souhaité que la construction d'une démocratie, de plus en plus mature, capable de répondre efficacement aux besoins de la société dans son ensemble, puisse se poursuivre. C'est une tâche ardue qui prend du temps, mais il faut déjà reconnaître que le Kazakhstan a fait des choix très positifs, comme celui de dire non aux armes nucléaires et celui de mener de bonnes politiques énergétiques et environnementales, affirme le Saint-Père. La rencontre avec la communauté chrétienne au Kazakhstan a particulièrement marqué le Saint-Père. Il y a trouvé des gens heureux, joyeux et enthousiastes, des catholiques peu nombreux dans un pays si vaste. Mais cette condition, selon le pape, si elle est vécue avec foi, peut porter des fruits évangéliques. Tout d'abord, la béatitude de la petitesse, d'être levain, sel et lumière, en comptant uniquement sur le Seigneur et non sur une quelconque forme d'importance humaine. Le pape invite à développer des relations avec les chrétiens d'autres confessions et aussi à la fraternité avec tous. Être le petit troupeau, oui, mais ouvert, pas fermé, pas sur la défensive. Confiant dans l'action de l'Esprit-Saint qui souffle librement où et comme il veut. Avec ce petit troupeau joyeux, le pape François a célébré l'Eucharistie à Nourn Sultan sur le parvis de l'exposition 2017. Entouré d'une architecture ultra-moderne. C'était la fête de la Sainte-Croix, le 14 septembre. Et cela fait réfléchir. Dans un monde où progrès et régression s'entremêlent, la croix du Christ reste l'ancre du salut. Un signe d'espérance qui ne déçoit pas parce qu'il est fondé sur l'amour de Dieu, miséricordieux et fidèle, a conclu le Saint-Père. Envoyé par le pape François pour la 4e fois en Ukraine, le cardinal polonais Konrad Krajewski a prié devant les corps enterrés dans des fosses communes à Izium, ville de la région de Kharkiv. Sur les lieux, le prélat puisse se faire proche de ceux qui veulent donner une sépulture digne aux victimes de la guerre. Il n'y a pas de mots, pas de larmes. Le cardinal Konrad Krajewski, aumônier apostolique du pape, envoyé par celui-ci en Ukraine pour la quatrième fois, résume dans cette phrase le sens d'une journée difficile et que seule la prière peut alléger. Depuis Kharkiv, il raconte ses moments passés avec Mgr Pavlo Onkaruk, évêque du diocèse de Kharkiv-Zaporizhia, à Izium, une localité que les Russes viennent de quitter, et où les restes de quelques 500 personnes ont été retrouvés. Nous avons assisté à une célébration, on peut le dire ainsi, au cours de laquelle 50 jeunes hommes, pour la plupart des policiers, des pompiers et des soldats vêtus de combinaisons blanches, creusaient des tombes, emportaient les corps de pauvres Ukrainiens tués il y a 3 ou 4 mois. Le cardinal affirme être abasourdi par une telle horreur. « Je sais, il y a la guerre, explique-t-il, et la guerre ne connaît pas de pitié. Il y a aussi les morts. Il est certain que le fait d'en voir autant dans une même zone est quelque chose de difficile à raconter. » Le cardinal Krajewski regarde et voit en ceux qui sont appelés à une tâche douloureuse la pitié de tout homme. « Il y a une chose qui m'a beaucoup touché, dit-il. Ces jeunes Ukrainiens sortaient les corps d'une manière si délicate, si calme, totalement silencieuse. Personne ne parlait, mais il y avait tellement de policiers, de soldats, au moins 200 personnes. Tout cela en silence, avec une incroyable estime du mystère de la mort. Il y avait vraiment beaucoup à apprendre de ces jeunes-là, poursuit-il. L'envoyé du Saint-Père a vécu un moment plein d'émotions, observant la façon dont les corps ont été transportés. Il semblait le faire pour leur propre famille, pour leurs parents, leurs enfants, leurs frères, dit-il. L'évêque du diocèse de Kharkiv-Zaporizhia et lui sont restés au moins 3 heures avec les fossoyeurs, récitant sans cesse le chapelet de la miséricorde divine. « Je ne pouvais rien faire d'autre », souligne le cardinal. Il s'agissait d'une célébration de la miséricorde, d'un geste totalement gratuit. Le cardinal polonais reste marqué. Cela m'est resté en mémoire maintenant que je suis de retour à Kharkiv. Je me tiens dans la chapelle et je pense à ces jeunes gens, affirme-t-il. Ce fut une journée difficile, avec également la visite d'un poste de police, transformé en chambre de torture. Je savais que je trouverais beaucoup de morts, mais j'ai rencontré des hommes qui ont montré la beauté qui est parfois cachée dans nos cœurs. Mais non, je me suis souvenu des paroles de la Sainte Écriture, selon lesquelles le mal doit toujours être vaincu par le bien. Une certitude qui est un baume sur les blessures de cette guerre, affirme-t-il. Le cardinal Krajewski a été touché par des tirs il y a 2 jours, sans être blessé, alors qu'il apportait de l'aide à Zaporizhia avec 2 autres évêques, un catholique et un protestant, et accompagné d'un soldat ukrainien. Pour la première fois de ma vie, a-t-il déclaré à Vatican News, je ne savais pas où courir, car il ne suffit pas de courir, il faut savoir où. Finalement, souligne-t-il, tout s'est bien passé. Personne n'a été blessé, et les aides ont été distribuées en totalité. Même les chapelets bénis par le pape, ceux qui les ont reçus, les ont immédiatement mis autour du cou. Merci de votre attention. Chers auditeurs, c'était notre émission Actualité du Pape. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.